Alors, comme ça, tu es un champion olympique. C'est intéressant, ça.
Oui, oui, il est là, oui. Très sympathique. Il a une belle tête de vainqueur.
Finale du 80 mètres haies féminin aux Jeux universitaires mondiaux.
Cours, je te dis, mais cours! Mais qu'est-ce qui se passe?
Ah, chute à l'arrière du peloton.
Cours, je te dis!
Tête de vainqueur. L'émission sport de Radio Campus Paris.
Mais pourquoi tu cours?
Un vendredi par mois.
Mais parce que tu cours!
20h.
Bonsoir à tous, Radio Campus Paris mouille le maillot pour cette rentrée 2016. On parle de sport un vendredi par mois. Oubliez ce que vous avez entendu sur les autres antennes. Tête de vainqueur vous plonge au cœur de la société avec le sport en ligne de mire. Et pour cette première, on aborde le handisport avec des invités en or. Le premier a fait ses premiers Jeux paralympiques en 88, c'était à Séoul. Aujourd'hui, il a 55 ans, il est sextuple médaillé d'or en escrime, la dernière acquise à Rio le 16 septembre dernier. Robert Citerne, bonsoir.
Bonsoir.
Le second incarne la nouvelle génération et à 24 ans, il a remporté avec Robert Citerne la médaille d'or aux Jeux Paralympiques de Rio en équipe à l'épée. Yannick Ifébé, bonsoir.
Bonsoir.
Notre troisième invité a contribué à cette médaille. Il est préparateur pour l'équipe d'escrime paralympique surnommé le Dindon. Jean-Baptiste Compère est avec nous.
Bonsoir.
Et pour cette première, laissez-moi vous présenter de belles têtes de vainqueurs, une belle équipe faite de jeunes espoirs, du journalisme, mais aussi de vieux renards des surfaces, aussi à l'aise sur un vélo que sur des patins. Anna vous immerge au cœur du derby roller.
Bonsoir.
Julien, l'homme qui tire aussi vite que son ombre, bonsoir. Tu es un peu Doc ce que est un Marty ce soir. Tu nous emmènes en quelle année?
Je vous amènerai en 2000 à Sydney.
Camille, elle descend les pistes de ski aussi vite que ce qu'elle court dans tout Paris à la recherche d'un film ou d'un spectacle. C'est notre atout culture de l'émission. Bonsoir.
Bonsoir.
Tel Juninho, il tire les coups francs comme personne. Jean-Michel Aulas est son idole. Erwan, bonsoir.
Bonsoir Thibault.
Alors tu es allé tirer le portrait pour nous.
Je suis allé tirer le portrait de Jean-Louis qui fait du basket fauteuil à Capsa.
Et n'oublions pas celui qui pourrait surfer sur ses jolies mèches de cheveux. Mickaël, bonsoir.
Bonsoir.
Enfin, Léa, dite la dindonne, est avec nous ce soir.
Bonsoir.
Jusqu'à 20h, nos belles têtes de vainqueurs sont avec vous sur le 93.9.
Masculine par équipe. Allez, 29 secondes encore. Et fatalement, c'est le français là qui donne tout, mais il est loin. La distance prise au départ entre les deux tireurs ne l'avantage pas. Il lui manque quelques centimètres pour toucher. Allez, Romain. Et il joue tactique, le chinois, à 13 secondes de la fin.
Faut y croire jusqu'au bout là. Allez.
Il le serre aux mains. Allez, Romain. Et oui, superbe. Il a bien attendu. Il a laissé partir le chinois avec beaucoup de sang-froid. C'est magnifique.
Allez, 8 secondes pour mettre la touche et gagner le match.
Et peut-être l'entendez-vous, les supporters français sont là et exhortent les tireurs français.
Il y a une ambiance terrible dans, dans cette Carioca Arena.
Allez, il reste 5 secondes. Allez, Romain. Allez. Allez, oui. Oh, il faut qu'il tienne 3 secondes.
Oh, c'est super ce qu'ils viennent de nous faire là.
Il faut qu'ils tiennent 3 secondes pour que la France soit championne paralympique. On n'a jamais eu ça. Allez, Romain. Ce sport est fou. Une intensité de dingue. La France garde son titre et championne paralympique.
Oh, c'est super.
D'escrime. C'est magnifique. Tout le monde pleure.
Ce dernier relais de Romain là, c'est vraiment, vraiment extraordinaire.
Sur le fil de l'épée, cette magnifique équipe de France. Robert Citerne à gauche, vous l'avez dit, Samy, Yannick Ifébé au centre et Romain Noble à droite qui a été le dernier de ce relais.
Le 16 septembre dernier, ils nous ont fait vibrer. Il est un peu plus d'une heure du matin, heure française, quand Robert Citerne, Yannick Ifébé et Robert Noble décrochent au bout du suspense le plus total une médaille d'or à l'épée en équipe. Robert Citerne, je vous sens ému en écoutant ce reportage.
Ah bah toujours. Toutes les médailles me rendent ému. Elles me font un petit peu pleurer, c'est normal, mais c'était une... J'ai vécu 8 équipes donc, depuis Séoul et encore une fois, ça me fera toujours pleurer. Je continue jusqu'en 2020. J'ai une bonne surprise à Tokyo. Je m'autorise. C'est vous, le 9e jeu.
C'est vos 8e là, oui.
Ouais,
c'est impressionnant. 8e. Vous n'êtes pas lassé au bout d'un moment?
Non. Et là, je suis tout excité. Là. J'avais envie de repartir rapide, mais j'ai dit bon, allez, on va se reposer un petit peu.
Léa.
1988, 2016.
T'étais pas née, Léa.
Ouais, j'étais pas née en fait. comment ils ont évolué les Jeux paralympiques depuis?
Alors, ils ont énormément évolué. En 88, on avait de la part du fauteuil, des règlements, de la distance, du levage de fesses, car quand on lève les fesses, il y a des assesseurs maintenant qui vérifient s'ils ne voulaient pas les deux fesses. Donc c'est carton jaune, on a pris pas mal de cartons jaunes en poule ou en équipe. Ça a évolué aussi au niveau du matériel, comme les valides. On a évolué en même temps que les valides au niveau du matériel spécifique, au niveau de notre matériel propre. Les handifixes qui permettent d'attacher les fauteuils sont maintenant en carbone ultra léger. Le but de ça, c'est que dans toutes les villes, les personnes en fauteuil comme Yannick qui est à côté de moi puissent prendre les plaques, les mettre sur ses genoux, les mettre dans son coffre avec la barre pour pouvoir aller dans d'autres salles s'entraîner. Avant, ils pesaient 3 tonnes. Quoi. Je me suis fait une tendinite, moi aussi, de l'épaule, en les mettant en place pour des stages à Reims, des choses comme ça.
Alors, juste pour préciser, vous, Robert, vous êtes hémiplégique, côté droit, c'est ça ?
Tout à fait.
Et vous, Yannick, vous êtes paraplégique depuis vos 3 mois, l'âge de vos 3 mois.
Tout à fait.
Voilà. Du coup, les jeux, c'est à part, ça représente quoi pour vous, Yannick ?
Pour moi, c'est le Saint Graal, en fait. C'est l'aboutissement d'efforts et d'entraînement, dans la chose. Et, bah, c'est 4 ans de travail pour pouvoir se qualifier et pour après pouvoir arriver à une médaille.
C'est quoi la différence avec une Coupe du Monde ? J'imagine la médiatisation, mais...
Oui, déjà ça pour commencer. C'est-à-dire que les Coupes du Monde, même chez les valides, c'est à peu près le même système. On en a assez souvent, mais on n'en parle pas souvent. Et là, c'est vrai que l'enjeu n'est pas le même. Donc vraiment, au jeu, ce sont les meilleurs des meilleurs. Donc du coup, les personnes qui sont présentes, tous, peuvent pratiquement avoir comme objectif le podium.
Et c'est pas difficile, par exemple, pour vous, Robert, de vous motiver encore à 55 ans d'aller aux entraînements et toutes ces choses-là ?
Moi, j'ai plus d'entraînement. Moi, je plaisante.
C'est vrai que
Non. En fait, à l'âge de 20 ans, quand j'ai poussé une porte à Grenoble, au centre universitaire de Cure, il y a mon kiné qui était là, dit bah tiens, fais de l'escrime, tu verras, tu fermes les yeux, c'est simple, c'est de l'épée. Voilà. Et en fait, 2 mois après, je vais aux Invalides, justement, où Yannick y est siégé, et je fais une médaille de bronze. Donc je bats Arthur Bellance, qui était la star de l'époque, et il a fait la gueule, hein. Il n'a même pas serré la main ni rien. Et il y a le maître d'art qui vient me voir, Jacques Marcieux, qui me dit, toi, c'est tous les siècles et c'est toi, t'as un don, donc on va te garder et puis tu vas faire ta carrière. À 55 ans, je suis toujours aussi gamin, j'ai toujours 10 ans sur la piste, un peu plus, 15 ans, et c'est moi qui mets l'ambiance. C'est-à-dire que sur toutes les Coupes du Monde, Championnat du Monde ou même Jeux Paralympiques, à Rio, je leur ai dit à 8h30, bon, je vous préviens, je vais mettre le public de mon côté, vous allez voir, on va s'arranger avec le Brésil et tout. Quand le Brésil, on les a pris en poule, j'aurais fait la bise, je fais même la bise aux Chinois, hein, je vous rassure, mais j'aurais fait la bise, j'ai félicité les Brésiliens, le public brésilien, donc du fait, en plus il y avait ma famille qui était dans les gradins, avec les partenaires d'entraînement, donc ça commence à chauffer, donc ils étaient bleu, et en fait ça continue jusqu'à la finale.
Oui, d'ailleurs, on l'entend dans le reportage, les commentateurs s'en rendent compte. Il y a un vrai engouement pour vous à ce moment-là.
Ouais, on a l'impression de jouer à domicile.
Oui, c'est ça. Et pour vous, Yannick, c'est un modèle, Robert ?
Oui, ça va.
Pas convaincu. Je sais pas si on peut dire. Sportivement, oui, peut-être.
Sportivement, on va rester côté sportif.
Bah, oui, non, mais de toute façon, en termes de palmarès, oui, c'est vrai qu'il a un palmarès ultra impressionnant. Et que moi, je commence dans l'équipe depuis 2 ans. Et ça, bah après j'ai pas envie de faire 8 jeux non plus, mais oui, c'est vrai qu'avoir un palmarès, un nombre de médailles d'or au niveau des jeux, c'est quand même c'est extraordinaire.
Moi, je voudrais revenir sur le moment où vous gagnez. C'est quand même incroyable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe, en fait ? Parce que derrière l'écran, c'était pas forcément évident de comprendre les règles.
Égalité 41-41.
Alors, en fait, non, le dernier relais est à 40-38. Le chinois n'était pas très combatif, en fait il restait toujours en arrière. On a eu plusieurs chances sur ce relais. La première, c'est que l'arbitre qu'on connaissait pas tellement les règles, c'est à dire que si la personne reste 15 secondes en arrière, c'est non combativité, c'est carton jaune. S'il le refait, c'est carton rouge, donc c'est un point à l'adversaire. Donc l'arbitre n'avait pas vu ça. Le russe qui arbitrait, qui regardait les fesses de Romain, lui a mis un carton jaune parce qu'il s'était levé une première fois. Mais dans sa tête, le russe s'est dit, puisque l'autre, il fait non-combativité, il est en arrière et que l'arbitre voit rien, à ce moment-là, on va laisser tomber, on va laisser courir, on va faire un match neutre. Mais, au bout d'une minute, donc des 3 minutes, pas de touche. Donc, le russe, qui connaît le règlement par cœur, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît depuis 15 ans, qui dit, t'arrêtes ton match, là, c'est bon, puis maintenant, c'est plus qu'une minute. On fait la priorité, et la minute, c'est jusqu'au bout, jusqu'aux 45 touches. Donc, moi, j'ai gueulé comme un malade. C'est pour nous la priorité. C'est pour la priorité. Tout le monde l'a entendu. Hein,
la priorité, en fait, c'est un avantage.
Un avantage. C'est-à-dire que si au bout d'une minute, on est soit ex-aequo, soit devant, c'est nous qui gagnons. Par contre, cette priorité-là est particulière. Si on est à 41-40, nous, on reste à 40, c'est lui qui gagne quand même, même si on a la priorité. C'est pas la mort subite. La mort subite, c'est une minute et c'est une touche. Celui qui met la touche a gagné. Donc, ça n'avait rien à voir avec la mort subite parce que la mort subite, il faut être à ex-aequo à la fin du dernier temps. Et après, il y a une minute de priorité. Enfin, une minute et une priorité. Et là, c'est la mort subite. La première touche, on gagne. Donc, on a la priorité. Donc, déjà, je suis très content, déjà, ça va. Mais par contre, Romain, il est toujours à 40-38. Donc là, il se prend encore un carton jaune. Le Chinois met 41-38. Il fait 41-39. Il reste 18 secondes. Et là, il faut tenter le tout pour le tout. Quand vous regardez la vidéo, les dernières touches... Romain, il se lève énormément. En fait, il est sur sa roue. Enfin, voilà. Donc, il se dit, on est mort, quoi. Parce qu'il va foutre un carton jaune, il va avoir un carton rouge, c'est terminé. Il n'a rien fait de cela. Et en fait, il a fait 40, 41, 41. Et le Chinois, lui, il était dans son match, complètement perdu. La Chinoise.
Il a compris, en fait.
Si, ils ont très bien compris. Mais le problème, c'est qu'il pensait qu'il y aurait encore une minute de mort subite. En fait, il pensait. Parce qu'en fait, quand on lui met qu'une minute, il dit, mais il y a encore deux minutes. Et l'arbitre, non, c'est une minute. C'est une minute priorité. On tire toutes les touches. Et on le voit, parce que moi j'ai regardé la vidéo, parce que j'ai récupéré toute la vidéo de A jusqu'à Z. Et la Chinoise, alors il y a les deux Chinois qui sont la bouche ouverte, comme ça, regarde. Puis après, il y a la Chinoise qui regarde à BT, comme ça. Puis le Chinois, il se fait engueuler, le pauvre, comme du poisson pourri. Et là, on le voit à la remise des médailles, dans le starting block. Il était dépité, mort. Enfin, il fait quand même une médaille d'argent par équipe, deux médailles de bronze. La Chine, c'est un pays très particulier. Hein. Je peux vous en parler plus tard ou tout à l'heure, mais...
On est là pour parler de vous, plus que de la Chine. Je voudrais quand même revenir sur ces Jeux qui se sont déroulés à Rio. Vous parliez de médailles d'argent et de médailles de bronze pour la Chine. Vous, en escrime, vous avez ramené une médaille d'or, la vôtre, et deux médailles de bronze. Il me semblait que le bilan était peut-être un petit peu plus haut, peut-être.
Non, en fait, moi réellement, je pensais vraiment une finale à l'épée. Au fleuret, je pensais aussi une finale, par équipe, hein, bien sûr. En médaille, je voyais aucune médaille. Sérieusement, le niveau est tellement haut, ils sont tellement professionnels, parce qu'on parlera pas des autres. Mais l'Ukraine, la Russie, la Chine, le gros avantage et le gros inconvénient, c'est qu'il n'y avait plus la Russie, puisque la Russie a été squeezée des Jeux. Donc effectivement, on pouvait penser qu'on aurait pu avoir plus de médailles, parce que la Russie est très forte aussi. En équipe, on est kiff-kiff, la Chine, la Russie, et nous, on est kiff-kiff, on est pareil. Donc ça aurait été un coup de poker comme là avec la Chine. Mais si vous voulez, le souci, c'est que les Ukrainiens sont forts, les Anglais sont forts, enfin ils sont tous forts, et on n'est que 12. Quand on est 40, quand on est dans une Coupe du Monde, on est 40, on a la chance de faire un quart de finale, peut-être une demi-finale, peut-être une finale. Quand t'es que 12, déjà t'enlèves les 4 qui sont pas forts, des 12, et après t'es 8, t'es les meilleurs du monde, quoi. Donc c'est vraiment, moi je perds contre mon Irakien 15-13, l'Irakien a fait quand même une médaille de bronze au championnat du monde, enfin il est costaud aussi, hein. J'ai bien perdu, parce que 15-13 c'était, je pensais même pas faire un tour de poule, enfin un tour de tableau.
Et pour finir sur ces Jeux Paralympiques, il y a Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux, Yannick?
C'est surtout au niveau des droits, en fait. Parce qu'aux Jeux Olympiques, il y a les anneaux. Et nous, on n'a pas les anneaux, ce sont une sorte de 3 virgules. Et du coup, on n'a pas le droit d'utiliser le terme Jeux Olympiques parce que c'est breveté, en fait. Et du coup, c'est parce que je pense que...
C'est une discrimination quelque part ou...
Non. Non, c'est juste qu'on voulait faire une distinction. Et puis je pense que nous aussi, on aimerait bien...
Vous préférez
avoir... C'est bien d'avoir une distinction. C'est-à-dire qu'il y a les Jeux Olympiques, les valides. Et nous, on a nos Jeux Paralympiques avec les personnes en situation de handicap. Et moi, je trouve que cette situation est pas mal.
Robert,
Pour revenir aux Jeux Paralympiques, en fait, à Séoul, il y avait les 6 virgules, en fait. Et le CIO, parce que le CIO, c'est côté valide, IPC, c'est côté handisport. Et le CIO a dit non, ça ressemble trop aux anneaux. Parce que nous, on faisait les 6 continents comme eux, et maintenant, c'est plus les 6 continents, c'est gloire, esprit, enfin, ces 3 termes exacts, ça n'a plus rien à voir avec l'olympisme. Mais il est vrai, comme dit Yannick, depuis 2016, depuis les 100 heures de direct à la télé, les journalistes et tout ça, on a pris du grade, et maintenant, on est bien placé pour continuer et pour avoir plus de public.
Alors on va reprendre un petit peu notre souffle quelques minutes et on continue de parler de l'escrime en e-sport. Ce sera juste après Turning Bat Around the Rods.
There's water on the ground down by the milestone. I don't just by looking at it. Well, I need to get across, but my hands are tied by my side. Can you swim? Can you swim just by kicking out?
C'était Turning Back Around de Rods. Vous êtes toujours à l'écoute de Tête de Vainqueur, à l'émission sport de Radio Campus Paris. Et c'est un vendredi par mois à 20h.
La passe en retrait.
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud.
Oh, la passe en retrait, la frappe et le but.
Et Julien vient de nous rejoindre. Alors,
oui,
ce soir,
bonsoir.
On part où dans
oui,
cette passe en retrait?
Eh bien, alors, pour cette première de Tête de Vainqueur, hein, nous parlons de Jeux Paralympiques. Alors, j'ai décidé de vous amener aux Jeux Paralympiques de Sydney en 2000. Donc, alors, pour ces 11e Jeux Paralympiques, ils se déroulent du 18 au 29 octobre. Un nouveau record de participation est établi, avec 122 pays qui participent. À noter que le comité d'organisation des Jeux Paralympiques faisait pour la première fois partie intégrante du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Alors après 10 jours de compétition, l'heure est venue. Oui, c'est maintenant le moment de la finale de basketball pour déficients intellectuels, qui oppose ce soir l'Espagne à la Russie. Alors, un match riche en rebondissements, mais plutôt rebondissements de ballon, car en effet, l'équipe d'Espagne remporte largement le titre. Et d'ailleurs, cette année, elle remportera 39 titres pendant cette édition, finissant ainsi 3e du classement, avec en tout 107 médailles. C'est sa meilleure performance aux Jeux Paralympiques. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, hein, c'est en Espagne, c'est la fiesta, l'Espagne est fière de ses champions. Eh ben oui, mais ça va pas durer. En effet, quelques semaines plus tard, un des joueurs de l'équipe de basket, en l'occurrence Carlos Ribagorda, dévoila la supercherie. Sur les 12 joueurs composant cette équipe, 10 ne souffraient d'aucun retard mental. Alors vous imaginez le scandale en Espagne, hein, qui bien sûr a dû rendre sa médaille d'or et son titre. Alors par contre, la décision de justice, elle, sera plus longue à venir. Ça ne sera qu'en 2013 que Martin Vicente, président de la Fédération espagnole de sport pour les déficients intellectuels, qui avait démissionné après cette affaire, a été condamné à payer une amende de 5 400 € et à rembourser près de 150 000 € de subventions publiques qui avaient été versées par l'État espagnol. À noter qu'à cause de cela, les déficients mentaux n'ont pas pu participer aux Jeux paralympiques suivants, donc 2004 et 2008, car il était trop difficile de détecter les tricheurs chez les déficients intellectuels. Et ce n'est qu'en 2012, à Londres, qu'ils ont pu réintégrer les Jeux paralympiques.
Merci beaucoup, Julien.
De rien.
Vous ne vous reposez jamais, vous.
Tête de Vainqueur, l'émission sport de Radio Campus Paris.
La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde.
Un vendredi par mois, 20h.
Et nous sommes toujours avec nos médaillés d'or paralympiques en escrime lors des Jeux de Rio, Robert Citerne et Yannick Ifébé, mais aussi Jean-Baptiste Compère, préparateur. Et Léa est toujours avec nous pour entrer un peu plus en profondeur dans l'escrime.
Alors tout d'abord, l'escrime en dit, ça ressemble à quoi?
C'est différent des valides, parce que les valides peuvent se déplacer sur la piste et nous se déplacer avec une arme en fauteuil, c'est un peu complexe. Donc du coup, nous on est fixé à notre fauteuil avec des handifixes, ce qui est un système français la plupart du temps, on utilise celui-là. Et du coup, le fauteuil est fixé et en fait c'est juste avec le mouvement du haut du corps qu'on va vers l'avant pour essayer d'aller toucher notre adversaire.
Et il me semble que vous n'êtes pas face à face,
non.
Mais vous êtes... De côté.
Oui, tout à fait.
Et en termes de matériel, est-ce que les fauteuils sont adaptés? Est-ce que vous avez des fauteuils personnalisés que vous faites faire sur mesure?
Oui, c'est ça. Donc du coup, bah, comme sur les handifix, parce que moi, par exemple, j'ai un fauteuil de ville avec lequel je ne pourrais pas faire des scrims. Du coup, on a tous notre fauteuil à nous, même les valides, comme Robert qui marche, du coup, à son fauteuil. Et du coup, c'est vrai que tout le monde fait tout le monde se met sur un fauteuil quand on fait les scrims en e-sport.
Robert Citerne, vous avez tiré avec toutes les armes en fait, si j'ai bien lu, sabre, fleuret, épée. Quelles sont les différences entre ces trois types d'armes?
Alors le fleuret et l'épée, c'est des armes de convention. Le fleuret et le sabre, pardon, c'est des armes de convention. Le sabre, on tire uniquement avec le tranchant, le faux tranchant. On peut faire de la pointe. On peut toucher tout, le masque, le corps complet et les bras et la manchette. Le fleuret, c'est la même chose, c'est une arme de convention. Donc les armes de convention, c'est des priorités. Il y a une attaque, une parade, une riposte. L'arbitre doit être très attentif à ces attaques pour savoir qui départager au moment que les lampes s'allument. L'épée, c'est plus simple. C'est une arme de duel. Les deux allument la lumière, c'est on a gagné, c'est un point chacun. Donc c'est vraiment des armes très particulières. Le sabre et le fleuret font 500 grammes. Le fleuret a un rupteur au bout de sa pointe pour pouvoir allumer. Si on n'allume pas 500 grammes, on ne touche pas. L'épée fait 750 grammes. Il faut mettre 750 grammes pour toucher. Si on met 500 grammes, ça ne touchera pas.
Et c'est laquelle que vous préférez?
Les trois. Non, mon arme, c'est l'épée. Hein. J'ai fait 24 ans de fleuret. 2005, j'arrête le fleuret, je fais de l'épée, du sabre. Mais depuis les années 80, je fais de l'épée. C'était pour moi la plus facile.
J'aimerais qu'on parle un peu du rôle de Jean-Baptiste Compère également. Vous êtes parti à Rio, vous avez été préparateur pour l'équipe. Comment ça se passe au quotidien justement? Comment on prépare une équipe d'escrime en e-sport alors que vous êtes valide?
Oui, alors en fait j'étais partenaire d'entraînement, donc comment ça se passe? On se met dans les mêmes conditions qu'un handicapé, donc dans un fauteuil, et puis après on fait l'escrime quoi. Hein, on fait l'escrime qu'on pratique en valide sur un fauteuil. Donc après, bon, il y a un petit temps d'adaptation au départ. Moi, ça fait déjà quelques années que je les suis, grâce à mon entraîneur, qui est aussi leur entraîneur, qui est l'entraîneur national à l'épée.
C'est lui qui vous a amené vers Normandie.
Ouais, tout à fait. Et
Jean-Yves
Huette, ouais. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à les suivre et à essayer de les monter au plus haut niveau.
Et vous avez réussi avec brio.
Quel est l'intérêt en fait de tirer contre des valides?
Disons que ça change. Ils ont une autre manière de voir les scrims parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc du coup, ils ont une technique différente. Et du coup, c'est vrai que nous, ça nous aide à nous améliorer. Parce que le circuit, on n'est pas beaucoup sur le circuit. On n'est pas autant que les valides. Du coup, on est souvent amené à se rencontrer souvent entre nous. Du coup, à avoir des personnes valides permet d'avoir une opposition différente.
Et peut-être juste pour revenir sur l'escrime handi, il y a des catégories, c'est bien ça, puisqu'il y a des formes de handicap complètement différentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les catégories A, les catégories B?
D'accord, disons qu'en escrime, il y a trois catégories, et dont deux seulement sont qualifiées pour les Jeux. Et du coup, il y a la catégorie C, ce sont les tétraplégiques, ce sont des problèmes de muscles, et qui ont du mal à se servir de leurs mains. Et la catégorie B, comme moi, ce sont des personnes qui n'ont pas d'équilibre du tronc, très peu, et donc du coup sans abdos la plupart. Et la catégorie A, comme Robert, ce sont des personnes qui ont l'équilibre du tronc, du coup des abdos, et certains marchent, on est obligé comme Robert, d'autres sont amputés. Ou...
Et du coup en équipe on peut varier
C'est obligatoire. Au DP vous avez 2A, 1B obligatoire. D'accord. Vous pouvez pas avoir 3A par exemple. Et la différence avec les valides, nous ils sont 4, il y a un remplaçant. Depuis nous, qu'on a repris les équipes en 2012, on n'a que 3. Trois partenaires, on n'a pas de remplaçant. Donc c'est un peu dommage parce qu'on laisse beaucoup de gens sur le carreau et que c'est compliqué après. Mais bon, on y arrive quand même.
Écoutez, on va quitter l'escrime quelques minutes et on va partir au basket.
Le portrait de tête de vainqueur.
Le portrait de tête de vainqueur.
Et le portrait, il est réalisé par Erwan. Bonsoir.
Bonsoir Thibaut. Absolument, moi je suis allé à la rencontre de Jean-Louis, qui est un membre de l'association CAPSA, qui est à la fois un club d'handisport, des équipes de basket fauteuil, rugby fauteuil et vélo à main, mais qui fait aussi des missions de sensibilisation au handicap dans les écoles, les entreprises et même les prisons. Parfois, Jean-Louis m'a raconté un peu tout ça. Lui, il est basketteur, il s'occupe entre autres au sein du club de l'intégration des plus jeunes dans les équipes, et il m'a parlé de ce qui l'avait amené à se tourner vers le handisport et de l'importance de la pratique du sport, notamment chez les jeunes.
Voilà.
Voilà. Voilà. Bon, bah, c'est bon, on arrive. Voilà. On refait de l'autre côté et on arrête.
Je m'appelle Louis Jean, j'ai 59 ans, je suis paraplégique complet, j'ai eu un accident en 2001 et je pratique le basket en fauteuil. Je faisais du sport dans un club et j'étais même entraîneur de basket déjà valide. Et comme je suis prof de PS, oui, je faisais du sport. C'était une sorte de suite logique. Quand on a un accident, on a l'impression qu'on est plus bon à rien. Et donc moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé, même pour ma vie de tous les jours, pour sauter les trottoirs, pour conduire après, pour faire des tas de choses et pour retrouver une vie sociale. Mais je l'ai retrouvé d'abord par l'association CAPSA où j'ai trouvé des solutions alors que j'avais que des problèmes.
En fait, faut que tu fasses le moins de distance. Tu perds.
Voilà.
C'est très bien.
CAPSA, au départ, ça a été créé en 95 par quelques copains qui avaient envie de faire du basket fauteuil et de monter une équipe. C'est un lieu où d'abord on est accueilli avec beaucoup de tolérance, où on peut partager des expériences qu'on n'oserait peut-être pas raconter à des personnes valides. Moi, quand je suis arrivé, Riyad Salem, le président de CAPSA, n'hésitez pas à rester une demi-heure, trois quarts d'heure après l'entraînement sur le trottoir pour me remonter le moral et me dire que justement, à tout problème, il y avait des solutions. Avant qu'il y ait Guillaume, il y a un garçon qui s'appelait Mathieu, qui devait être en 4e ou 3e, donc il avait 14-15 ans. Bah, c'est à la fois intéressant qu'il côtoie des gens qui peuvent avoir des problèmes un peu similaires aux leurs. Et à partir de là, on se refile entre guillemets des combines, des trucs qu'on a trouvés pour que ça soit plus facile dans la vie de tous les jours. Comme on a toujours un état d'esprit d'autodérision dans le groupe et dans le milieu du handicap en général, on va se chambrer mais en rigolant et ça fait passer bien des choses plus facilement. Et puis c'est bien aussi qu'ils côtoient des valides parce que bah, dans la société, voilà, il y a un mélange, il y a des différences. Pour la différence, contre l'indifférence. C'est ça qui nous paraît le plus important en fait.
Et à cette occasion, Thibaut, j'ai eu l'occasion de pratiquer le basket fauteuil en rencontrant Jean-Louis. Et crois-moi, c'est loin d'être facile. Déjà parce que je suis très nul au shoot. Et puis parce que le geste à prendre pour dribbler avec le ballon en poussant le fauteuil, je peux te dire que c'est vraiment difficile. Mais en tout cas, le club est ouvert aussi aux personnes valides. Et c'est assez ludique. Ils aiment bien accueillir des personnes valides pour jouer avec eux. Donc n'hésitez pas à y aller.
Merci beaucoup, Erwan.
Peut-être on mettrait un mec qui court et après on lui met un carré avec du sable.
Très sympathique.
Et s'il saute loin, c'est bon et tout.
Il a une belle tête de vainqueur.
Si vous nous rejoignez, sachez que vous êtes dans la première émission sport de Radio Campus Paris, votre nouveau rendez-vous un vendredi par mois à 20h et nous sommes avec nos médaillés d'or paralympique et par équipe Robert Citerne, Yannick Ifébé et Jean-Baptiste Compère, préparateur de l'équipe et Léa est avec moi pour cette interview.
Oui, me revoilà. est-ce que comme ça peut se faire en athlétisme, certains handis en escrime tirent avec les valides au jeu?
Au jeu? Non.
Ouais. Non.
Non, non.
Non.
En fait, l'avantage de l'escrime en e-sport, c'est que tout le monde peut le pratiquer. Il y a les non-voyants qui le pratiquent, il y a les sourds qui le pratiquent, il y a les femmes enceintes, comme Laura Flessel, à un moment, elle était enceinte, elle a fait du fauteuil pour pouvoir continuer son entraînement. Il y a beaucoup de choses comme ça. En fait, je pense que l'escrime, c'est ce qui se rapproche le plus de tout problème médical, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'on peut le pratiquer tranquillement, sans aucune contrainte. Alors que d'autres sports, c'est compliqué, c'est difficile, il faut mettre en place le fauteuil, on le bloque et terminé. Même sur une chaise, on peut pratiquer l'escrime sur une chaise pour pouvoir faire des entraînements, juste des positions de main ou des pressions de main.
Il y a aussi quelque chose qui est assez original, c'est que vous avez plusieurs armes, comme vous l'avez expliqué. Est-ce que vous pensez que à l'avenir, les tireurs n'auront plus qu'une seule arme?
Oui, bien sûr, ça commence. Là, sur les 9 tireurs qui sont partis à Rio, il n'y en a que 2 qui ont fait 2 armes, Romain Noble et Marcus Crater. Les 2 n'ont fait aucune médaille, hélas. Je suis triste pour eux, bien sûr. C'est difficile, c'est compliqué, mais se concentrer sur 2 armes, c'est pas possible, parce que c'est 3 jours de stage en épée, 3 jours de stage au sable, ainsi de suite. Moi, je continue mes 2 armes, mais je ne ferai plus qu'un entraînement avec une arme, l'épée. Le sable, je le garde en 2e arme. Toutes les coupes du monde, on est obligé de faire les 2 armes, parce qu'on arrive le jeudi pour repartir le lundi, parce que les équipes, c'est le dimanche. Enfin, c'est un peu le chaos complet. On peut pas régler de rester 2 jours ou 1 jour comme les valides et repartir. En e-sport, c'est compliqué, parce qu'il y a toute la logistique, des fauteuils, des housses, tout ça. L'aéroport, les navettes, on peut pas partir comme ça en Coupe du Monde juste avec un petit sac et on y va, quoi. Non, c'est très compliqué. Et de plus, les armes sont de plus en plus difficiles parce qu'il y a de plus en plus de haut niveau, enfin de plus en plus de gens qui s'entraînent beaucoup, et ça fait que on se retrouve sur des questions très très diverses et variées en disant est-ce qu'il faut faire 2 armes ou plus qu'une arme.
Yannick, vous avez commencé vous à 8 ans l'escrime. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre à l'escrime?
Disons que à la base je faisais du basket en même temps et disons que dans le centre où j'étais il y a eu une démonstration d'escrime et puis ça m'a bien plu parce que c'est un sport complet pour moi, c'est la réflexion, rapidité, la combativité, et c'est ça qui m'a vraiment plu dans le sport, c'est pour ça que j'ai continué d'ailleurs, j'ai arrêté le basket à côté.
Et vous le regrettez pas?
Non, pas du tout.
Vous parliez de professionnalisation d'escrime, en tout cas je crois que vous parliez des Chinois peut-être devenaient pro.
Tous les pays.
Tous les pays aussi. C'est quelque chose aussi en France qui s'observe? Non.
Non. Enfin, ça s'observe évidemment, mais il n'y a pas les moyens. L'État n'a pas les moyens, les fédés n'ont pas les moyens. Quand vous voyez que la Fédération française des sports regroupe tous les sports, en fait, il y a plus de 20 sports qui sont regroupés, et le haut niveau avec, et le loisir, enfin, ils ont beaucoup de choses à faire. Et le souci qu'on a, c'est que toutes les Coupes du Monde chez les valides, quand vous êtes dans les 16, c'est la fédé qui prend en charge. Nous, c'est notre club. Notre club prend en charge de A jusqu'à Z. Donc effectivement, une saison coûte à peu près 10 000 euros par an. Donc si on ne trouve pas le club qui veut bien payer ça, on arrête, quoi, parce qu'on ne peut pas payer 10 000 euros. Donc vraiment, il y a beaucoup de clubs en France qui aident énormément l'handisport, parce que c'est intéressant, parce que c'est l'ouverture, c'est les mairies, les villes qui ouvrent ça. Et heureusement que les villes sont là et les maires sont là pour comprendre que l'handicap vient du bas et pas du haut.
Et justement, on va parler de l'handisport d'une manière générale, mais ce sera dans quelques minutes. With the Ground, c'était Dorsfall, un groupe stéphanois. C'est désormais votre rendez-vous mensuel Tête de Vainqueur sur le 93.9, un vendredi par mois à 20h.
Culturisme. Culturisme, l'instant culture de Tête de Vainqueur.
Et Camille nous a rejoint et elle va nous prouver que le sport n'est pas incompatible avec la culture, bien au contraire.
Tout à fait, Thibaut. Culturisme, c'est les 3 minutes chrono pour parler du sport, à grands coups de bouquins, BD, films, séries, spectacles, conférences, expos. Bref, vous avez compris. Alors pour le premier mix de la saison, on va mixer cinéma et rugby avec le film Mercenaires, un film qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs au dernier festival de Cannes et qui est sorti en salle cette semaine. Précision importante, ce n'est pas un film documentaire sur le milieu du rugby, c'est bien une fiction. C'est l'histoire de Sohan, un jeune rugbyman wallisien qui est recruté par un club et qui s'exile donc en métropole. Petite info au passage, Wallis, c'est un archipel français près de la Nouvelle-Calédonie dans l'océan Pacifique. Alors la commande du club de métropole, c'est un pilier de 140 kilos, sauf qu'à l'arrivée à l'aéroport, Sohan n'en pèse que 110. Hein. Le club rompt le contrat, le jeune homme magouille pour se faire embaucher dans un tout petit club en mercenaire, c'est-à-dire celui qui vient soutenir l'équipe pour une saison, pour la faire monter en division supérieure. Alors c'est pas du tout un spot promo de la fédé de rugby, le film parle de beaucoup de tabous dans le milieu, les joueurs étrangers traités sans égard par leur staff, leur salaire très faible quand ils sont versés, le racisme ou encore le dopage. Et détail important pour les scènes de jeu, l'acteur principal est lui-même un rugbyman wallisien. Il s'appelle Toki Polioko, il a 20 ans et il joue chez les Espoirs d'Aurillac et c'est son premier film. Alors esthétiquement c'est très beau, c'est Mercenaires de Sacha Wall et c'est en salle depuis mardi.
Merci beaucoup Camille.
Ah mais non, il reste encore plein de choses à dire. Car après cinéma et rugby, théâtre et vélo, avec la pièce Anctil tout seul, c'est tiré d'un livre du même nom écrit par un de ses coéquipiers où il raconte sa passion, son obsession pour la star du cyclisme et surtout sa vie hors norme. Sur scène, ça donne un récit à trois voix, trois personnages, Anctil en maillot jaune qui pédale sur scène, sa femme et un troisième personnage qui prend la voix de Poulidor ou du directeur sportif. Voilà, il y a aussi des installations visuelles, sonores, il y a des archives, photos, journaux d'époque. Voilà, c'est la vie d'Anctil et c'est jusqu'au 13 novembre au studio Héberto dans le 17e. Et très vite, avant de finir cette chronique, une dernière petite suggestion, c'est un reportage radio sur le e-sport, c'est plutôt sur les gamers, les pros du jeu vidéo qui passent leur soirée à jouer, parce que c'est vraiment leur métier. Donc si vous voulez, comme moi, comprendre comment est-ce qu'on peut faire de l'argent avec Call of Duty, eh ben, France Culture a rencontré trois gamers qui sont collègues
de boulot. Call of Duty, en plus, c'est du sport.
Eh ben écoute,
sur jeu vidéo.
Le e-sport va bientôt peut-être être considéré comme un sport avec... avec un sport olympique, avec des gamers professionnels qui seraient considérés avec un statut un peu spécial, d'où l'intégration du e-sport dans cette chronique. Et si vous voulez en savoir un peu plus, eh bien, il y a le reportage de France Culture qui s'appelle Payer pour jouer. C'est dans l'émission Les Pieds sur Terre. Vous tapez dans votre barre de navigateur et ça tombe. Voilà.
Et tout ça, ce sera après avoir fini l'émission de Tête de Vainqueur.
Évidemment.
Merci beaucoup, Camille.
Merci, Camille.
Peut-être on mettrait un mec qui court et après on lui met un carré avec du sable.
Très sympathique.
Et s'il saute, et s'il saute loin, c'est bon et tout.
Il a une belle tête de vainqueur.
Julien nous a rejoint, Robert Citerne et Niki Febe. J'aimerais qu'on aborde la dernière partie de notre émission et qu'on parle du handisport d'une manière plus large, notamment sur la médiatisation. Est-ce que vous n'êtes pas frustré par la faible médiatisation qui entoure le handisport ?
Alors, on était frustré hein, en 2008, 2012, mais France Télévisions a changé son regard.
100 heures de direct.
100 heures de direct. En fait, j'ai les chiffres. Hein, 100 heures de direct, 14,8 millions de téléspectateurs cumulés. Pour les valides, il y avait 40 millions sur 700 heures. Donc vous voyez comme quoi il y a quelque chose à faire. Je pense que France Télévisions l'a bien compris. Et que...
Ça reste faible tout de même.
Oui, mais c'est un début. C'est comme si le handisport arrivait aujourd'hui et que France Télévisions dit bah, « Tiens, je vais le prendre tout de suite ». Ils auraient pu le prendre en 88, enfin 92, 96, 2000. Et 2004, c'était pas mal. C'était pas mal recouvert. Mais après 2008, 2012, ça a perdu de son âme. Mais je pense que là, ils ont compris qu'il y a quelque chose à faire d'intéressant.
Et on a entendu beaucoup de critiques sur les Jeux Olympiques à Rio, sur le fait que tous les stades n'étaient pas forcément pleins et tout ça. Vous, est-ce que vous l'avez constaté, Yannick, qu'il y avait moins de monde justement, ou au contraire, plus de monde dans les salles
Non, au contraire, il y avait beaucoup plus de monde parce que les prix ont changé. C'est-à-dire que chez les valides, ils avaient mis les prix à entre 60 et 100 euros. Pour une population dont le salaire moyen est entre 400 et 500 euros. Mmh. Et du coup, évidemment, ça ne suit pas. Alors que pour les Paralympiques, les prix ont été baissés et du coup, un billet moyen était à 3 euros. Bon, du coup, c'est pour ça qu'il y avait plein de familles qui venaient. Enfin, c'était un moment regroupement familial. C'est pour ça que la plupart des stades étaient pleins, justement.
Et cette disparité entre un billet pour 100 euros pour voir Usain Bolt et 3 euros pour voir des athlètes paralympiques, ça vous gêne pas ?
Après, c'était 3 euros, c'était les prix moyens. Mais
oui, du coup, mais ça vous gêne pas ?
Bah, Pas forcément, parce que je veux dire, c'est nous, on commence à vraiment être médiatisé, donc c'est vrai qu'on n'y a pas quelqu'un qui a l'aura de Usain Bolt. Il y en avait un, mais bon, voilà quoi. Mais et voilà, pour l'instant, on n'a pas encore un Usain Bolt qui peut vraiment tirer des gens et tirer des le prix.
En fait, moi, je suis d'un avis contraire. Le paralympisme, c'est quelque chose qui doit être vu par tout le monde. Donc, en fait, les coûts devraient être bas. Ça devrait être 5 euros, 6 euros, 8 euros, quel que soit l'athlète qui est sur le stade. C'est pas un meeting, c'est pas le tennis, c'est pas du golf, c'est pas des choses comme ça. Tout le monde a le droit à faire du sport, tout le monde a le droit d'aller aux Jeux olympiques ou paralympiques, et tout le monde a le droit de regarder. Et pour regarder, il faut faire des prix abordables pour que déjà les stades soient pleins, parce que c'est une fête mondiale. C'est pas la fête de ton quartier, c'est une fête mondiale où il y a tout le monde, et c'est important vraiment de comprendre que les billets doivent pas être élevés, aussi élevés que ça, parce que c'est du marketing, c'est de la pub. Il faut qu'ils rentrent dans leurs frais, évidemment. Mais à un moment, il faut dire que l'Olympisme et le Paralympisme, c'est une grande fête de famille, et tout le monde doit pouvoir le voir en direct.
Donc du coup, le seul truc qui s'éloigne du sport business qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, c'est les Jeux paralympiques, par exemple.
Pour l'instant, oui.
Ça va pas tarder. Hein.
Justement, je voulais revenir un peu sur l'escrime, parce qu'on parle beaucoup de foot, de rugby, d'autres sports. Mais l'escrime, on n'en parle pas beaucoup, voire pas du tout, en dehors des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais est-ce que ça pose un problème pour que de nouvelles personnes s'y intéressent et se disent, ah bah tiens, l'escrime, c'est sympa, si j'allais voir un peu, si je m'y intéressais.
Mais en fait, il n'y a pas que l'escrime, hein. Il y a le canoë-kayak, enfin, il y a tous les petits sports, le tir à l'arc.
Tous les autres sports.
L'escrime, c'est ça, mais je pense que pour parler du sport, il faut les médias. Qu'ils soient audio ou télé ou journaux, il faut vraiment qu'ils soient là pour pouvoir nous dire voilà, on va vous au monde, au championnat du monde, au championnat d'Europe, aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas que les Jeux Olympiques, il y a d'autres compétitions qui sont importantes dans le monde, et là on devrait avoir un petit espace. Mais bon, après, c'est une question d'argent. Hein.
Messieurs, avant de revenir sur le sujet, je vous propose tout de suite une petite immersion.
Immersion. L'immersion de Tête de Vainqueur.
Anna a rendu visite aux Lutèce Destroyeuse, association parisienne de roller derby, qui lui a permis de suivre tout un entraînement. Petite immersion dans ce sport féminin.
Là, on est donc au gymnase McDonald's, c'est dans le nord de Paris, c'est un gymnase de la mairie de Paris, pour l'entraînement de roller derby du vendredi soir.
Bonjour. Salut.
Ça va ?
Ouais, j'ai cru que j'étais vachement en retard.
Le roller derby, c'est un sport de contact qui se joue sans ballon et c'est autour d'un track, donc c'est un peu comme une course avec contact. Il faut empêcher le jammer de passer. Le jammer met des points et tous les autres essayent de le bloquer.
C'est quoi un jammer ?
Le jammer, c'est celui qui a l'étoile sur la tête.
Bon, allez, on va démarrer l'échauffement.
On va faire de la reformation, des murs, des changements de formation, tout ce qui tourne autour du roller derby. Hein,
les rollers, c'est forcément des quads. Et après, c'est mieux d'avoir des quads en fait, spéciaux derby parce qu'ils permettent à la cheville de bouger. Et c'est utile dans les crossovers quand on tourne.
Deux coupettes par feu, une flash meet avec une chose qui est SMS.
En gros, quand tu commences le derby, t'as pas le droit de faire des matchs tout de suite. Tu dois passer les minimum skills, qui sont un examen théorique et pratique, pour vérifier que tu connais les règles et que t'es pas dangereux. Donc le test théorique, c'est 50 questions et il faut en faire 40 justes.
Parce que les équipes féminines s'entraînent quasiment toutes en même temps. Quand on prend les équipes de Paris, typiquement, les PRG, elles s'entraînent aussi le vendredi soir. Et puis après, c'est pas toujours facile aussi pour des équipes qui vont s'affronter ensuite dans des matchs de se coacher les unes les autres. Donc, comme il n'y a pas forcément des joueuses déjà retraitées en France, parce que le derby n'est pas si ancien que ça en France, c'est généralement des hommes qui coachent sur les entraînements. Et inversement, puisque nous, nos coachs dans les équipes masculines sont des joueuses.
Tu l'as fait où, tes crossovers au début?
Là, voilà.
Un peu comme les trois quarts des gens, j'ai vu Bliss il y a très longtemps. Et ça fait bien 6 ans, je pense, que j'ai vu Bliss. Et je me suis dit que c'était trop cool et que je voulais faire ça. Quoi.
Voilà, c'était un reportage d'Anna aux Lutèces Destroyers.
Ah bah si la natation c'est pas sa spécialité, elle a rien à foutre dans une piscine, puis c'est tout.
Oui oui, il est là. Oui.
Ah ouais, elle nage bien, ouais. Et par rapport à un requin? Bah oui, eh, ça veut dire qu'il y a encore du boulot, puis c'est tout.
Très sympathique. Il a une belle tête de vainqueur.
Tête de vainqueur, un vendredi par mois à 20h. Dernière partie avec nos médaillés d'or paralympiques. En escrime, c'était lors des Jeux de Rio. Robert Citerne, Yannick Ifébé, vous êtes toujours avec nous, mais aussi Jean-Baptiste Compère, préparateur. Messieurs, Robert Citerne, je voudrais plus revenir vers vous. Vous qui êtes dans le circuit depuis 30 ans, presque 30 ans.
32 ans.
32 ans. Vous avez vu des évolutions depuis le début?
Ah bah, tout a évolué. Le matériel, les règles, les primes.
Et dans le handisport? L'évolution dans la manière de traiter dans les médias et toutes ces choses-là, est-ce que vous voyez une sorte d'évolution? Est-ce que vous vous sentez plus revalorisé qu'une certaine époque ou...
Bah, oui, grâce à cette loi de 2005 qui permet d'ouvrir l'handicap dans les villes, dans les ministères, donc l'accessibilité est importante. L'escrime est de plus en plus accessible dans les clubs, donc il y a beaucoup d'aménagements qui sont faits pour justement accueillir des gens en fauteuil et pouvoir pratiquer quel que soit le sport. Donc l'évolution a été longue, rude, difficile, parce qu'il n'y a pas les moyens, il y a certaines villes qui n'ont pas les moyens. Donc effectivement, l'État a bien fait évoluer les choses, et quel que soit le gouvernement, parce que de toute façon, l'handicap concerne tout le monde, ça ne concerne pas juste une partie politique, ça concerne tous les politiques, parce que c'est important que l'handicap, on soit bien dans nos villes et qu'on puisse se mouvoir correctement dans les villes, autant dans les villes que dans les ministères, que dans les bâtiments publics, choses comme ça.
Et la médaille, par exemple, une des disparités qui a disparu, c'est le coût que vous remportez, le prix que vous remportez pour une médaille d'or.
J'ai pas encore eu.
Je sais pas si vous voulez en parler.
Oui, non, mais y a pas.
Dire en tout cas, mais c'est le même que pour les athlètes olympiques.
Tout à fait. Depuis 2008, en 2006, ils ont augmenté les primes pour les Jeux d'hiver, et 2008, Jean-François Lamour a décidé que les primes seraient équivalentes aux primes valides. Donc 50 000 pour la médaille d'or, 20 000 pour la médaille d'argent et 13 000 pour la médaille de bronze. Mais il y a aussi des choses qui ont évolué. En 96, les valides étaient reçus à l'Elysée pour toucher les médailles, qu'elles soient Légion d'honneur ou Ordre du Mérite National. Et depuis 96, ils ont dit on met les mêmes médailles pour les valides. Voilà, donc tout évolue en fait. On est à peu près les équivalents des valides, quelles que soient les primes, les entraînements et choses comme ça. C'est important qu'on soit au même niveau. On n'y est pas encore tout à fait, mais ça avance bien. Et partie médiatique, effectivement, ça avance à pas de géant, je pense.
D'accord. Et justement, par rapport au financement, vous vivez de quoi? Vous avez un métier à côté, comme certains athlètes ou pas, ou vous êtes justement, vous vivez que de ce sport?
Non.
Alors moi, j'ai fini mes études, moi, en septembre dernier. Et du coup, mais après, j'ai signé un contrat de 3 ans avec le ministère de la Défense et l'armée. Et du coup, je suis rémunéré à faire des scrims, en fait, pour l'instant.
D'accord, vous êtes payé pour faire de l'escrime par le ministère de la Défense en tant qu'athlète?
Tout à fait.
Et vous, Robert ?
Non, la base, la personne handicapée travaille au début. En fait, ils ne s'entraînent pas. En fait, on n'a pas les liens de l'INSEP où justement les jeunes sont pris à 14, 15 ans et ils peuvent tranquillement faire leurs études et faire leur sport. Moi, je suis directeur sportif et événementiel du Levallois Sporting Club. Mon club, c'est le Levallois Sporting Club et je suis obligé de travailler. J'ai pas de prime, j'ai pas de salaire sportif. Je travaille parce que d'abord, j'aime travailler, j'aime faire le sport, j'aime faire l'idiot sur les pistes. Enfin, moi, j'aime tout. Donc, voilà, je suis un homme complet et comblé.
Bah écoutez, on va terminer là-dessus. Je vous remercie énormément d'être venu nous parler de votre médaille. Robert Citerne, Yannick Ifébé, Jean-Baptiste Compère. Vous êtes les parrains de cette nouvelle émission. D'ailleurs, la médaille, là, vous l'avez.
Oui.
Et en plus, elle fait du bruit, cette médaille.
Oui, c'est pour les émissions visuelles.
C'est pour les voilà pour qu'ils puissent
pour qu'ils puissent reconnaître la médaille en fait.
Ok, bah super. Voilà des médailles d'or dans les locaux de Radio Campus Paris. Merci d'avoir été les parrains.
Merci
émission.
Surtout à Radio Campus de nous avoir reçus. C'était très sympa et j'espère qu'il y aura d'autres séries comme ça parce que c'est très sympa de venir à une radio puis déconner un peu.
Mais écoutez, merci. Puis si vous avez envie d'écouter, hein, c'est tous les vendredis à 20h.
Mais on
avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Vous ne vous reposez jamais, vous.
Tête de vainqueur, l'émission sport de Radio Campus Paris.
La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde.
Un vendredi par mois, 20h.
Et l'émission n'est pas terminée, il nous reste quelques minutes pour parler du sport étudiant. C'est Mickaël qui nous en parle. Alors le sport est également pratiqué chez les étudiants et pour en parler du sport universitaire, c'est Mickaël, c'est ce que je viens de dire.
Alors pour cette première de Tête de Vainqueur, j'ai décidé de vous parler de la structure qui valorise le sport de compétition chez les étudiants à l'échelle nationale, à savoir la FFSU, la Fédération Française du Sport Universitaire. Je suis donc allé à la rencontre de Damien Bardot, directeur de la communication et des partenariats au siège fédéral de la FFSU au Kremlin-Bicêtre.
Et donc, est-ce que tu peux nous dire sur la FFSU ?
Alors, pour commencer, quelques chiffres qui montrent l'impact de cette structure. 150 000 licenciés dans toute la France, 60 disciplines représentées à travers différentes compétitions, 100 championnats de France, 800 championnats d'académie. Bref, vous l'aurez compris, la Fédération Française du Sport Universitaire est une très grosse structure. D'ailleurs, elle est assez ancienne et je vous propose d'écouter Damien Bardot.
La FFSU en tant que telle a été créée en 1978, mais le sport universitaire date de bien avant, puisqu'au départ, il y avait une structure commune qui s'est appelée successivement l'ASU et l'OSU, l'association du sport scolaire et universitaire. Donc le sport scolaire et universitaire étaient réunis sur la même bannière et en 1978, il y a eu une séparation et donc sont nés l'UNSS, l'Union Nationale du Sport Scolaire, et la FFSU, la Fédération Française du Sport Universitaire.
Et donc, ça s'organise comment, la FFSU ?
Alors, la FFSU a un siège fédéral et 25 comités régionaux. Au siège fédéral, comme dans toute association, il y a un conseil d'administration. Dans ce conseil d'administration, on retrouve un président élu, 9 délégués et 12 étudiants issus des comités régionaux, ainsi que 3 membres de droit, donc la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et le Comité national olympique et sportif français. Concernant les étudiants, Damien Bardot m'expliquait qu'il était important pour la FFSU de les intégrer dans les différents conseils d'administration, à l'échelle nationale ou régionale, car, pour reprendre ses mots, c'est un moyen pour eux de s'intégrer dans la vie associative et de se former à une future vie de dirigeant. Les comités régionaux, à qui le siège fédéral délègue l'organisation des championnats de France universitaires, s'appuient aussi beaucoup sur les étudiants pour mettre en place ces compétitions dans le cadre de stages, de projets tutorés ou de services civiques.
Et concrètement, la FFSU, elle se reflète dans les établissements d'enseignement supérieur ?
Alors, tout d'abord, il est important de préciser que les services des sports dans les établissements, qu'on appelle parfois les SUAPS, ne sont pas rattachés à la FFSU car elles concernent le sport de loisirs. La Fédération Française du Sport Universitaire, elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'occupe du sport de compétition entre établissements. Donc la FFSU réunit 470 associations qui participent à ces compétitions inter-établissements. D'ailleurs, certaines de ces associations sont directement gérées par des étudiants, ce qui est très formateur pour eux, selon Damien Bardot, en termes de prise de responsabilité à travers la valeur du sport citoyen. En parlant de valeurs, justement, toutes ces associations se reposent sur différentes valeurs véhiculées par la FFSU, parmi lesquelles le sport éthique et amateur qui se démarque du sport marchand, le sport-jeu qui consiste à faciliter l'intégration sociale et universitaire, le sport-santé qui contribue à l'équilibre de l'étudiant et le sport-partage qui facilite les échanges interculturels. À noter aussi que la FFSU forme des arbitres et des juges parmi les étudiants.
Alors tu parles beaucoup de sport de compétition, mais comment elles s'organisent en fait ces compétitions ?
Alors, sur le plan national, l'organisation est assez classique. D'abord, il y a les compétitions au niveau régional. Les meilleurs se qualifient dans un premier temps pour les championnats interrégionaux, puis pour les championnats de France dans un second temps. Ensuite, la FFSU envoie les équipes championnes de France au championnat d'Europe organisé tous les deux ans par l'ESA, l'Association européenne du sport universitaire. Cette année, les Jeux européens universitaires se sont déroulés à Zagreb et des équipes françaises y ont remporté des titres, notamment l'équipe féminine de rugby à 7 de l'Université Paris 13. Voilà, après la FISU, la Fédération internationale du sport universitaire, organise les championnats du monde universitaire et les universiades qui fonctionnent sur un autre système. En effet, pour ces compétitions internationales, la Fédération française du sport universitaire travaille avec les différentes fédérations sportives nationales, la Fédération française de football par exemple, pour sélectionner les équipes qui représenteront la France tout en respectant deux critères. Les athlètes doivent être étudiants et avoir entre 18 et 27 ans. Les universiades sont l'équivalent des Jeux olympiques pour les étudiants. Elles se déroulent toutes les années impaires en été et en hiver. Puis il y a donc les championnats du monde universitaires qui se déroulent chaque année pair. Ce sont en fait des compétitions par discipline concernant une trentaine de sports qu'on ne retrouve pas aux universiades. Pour finir, je vous propose d'écouter Damien Bardot évoquer les athlètes français qui ont participé par le passé à des championnats du monde universitaires ou des universiades avant de s'illustrer au JO de Rio.
À Rio, c'était un record puisqu'on a eu 92 athlètes français au sein de la délégation française qui avaient auparavant participé aux universiades ou aux championnats du monde universitaire. Parmi eux, 25 ont obtenu des médailles. Et c'est vrai que pour nous, on l'a particulièrement valorisé. Et puis c'est une fierté puisque c'est des athlètes qu'on a connus, qu'on a accompagnés dans leur progression, qui ont participé à une ou à plusieurs universiades ou à plusieurs championnats du monde universitaire. Donc on les a vus, on les a connus plus jeunes, on les a vus évoluer. Et forcément, atteindre les Jeux Olympiques, c'est une forme de consécration et de Graal. Et en plus, quand ils y brillent, comme ça a été le cas pour nombre d'entre eux, pour nous, on le vit forcément comme quelque chose de très fort. Hein.
Et il y en a une qui a particulièrement brillé durant ces JO, c'est Émilie Andéol.
C'est une fille bien déjà, puis elle a laissé éclater son émotion. C'était un petit peu inattendu aussi parce qu'elle n'était pas forcément très connue du grand public. Il se trouve que nous, on la connaissait bien puisqu'elle a fait les Universiades de Bangkok en 2007 avec nous et puis les Universiades de Shenzhen en 2011 où elle a gagné 3 médailles de bronze. Elle a dit que pour elle, tout avait commencé aux Universiades, que ça avait été le déclic de sa carrière. Elle l'a dit, ses coachs l'ont dit. Donc pour nous, ça a été au-delà du côté affectif pur, c'était aussi une forme de reconnaissance du travail accompli. Ça nous conforte dans l'idée qu'on joue ce rôle de tremplin à notre modeste niveau, hein, mais en tout cas, on accompagne ces athlètes dans leur parcours et on est fiers et heureux de pouvoir les accompagner et les suivre.
Merci beaucoup, Mickaël, pour cette chronique. On te retrouve le mois prochain.
Avec plaisir.
Merci, cette émission est désormais terminée. Un immense merci à nos invités, à toute l'équipe de Tête de Vainqueur, sans oublier Fanny, qui pratique le chat perché comme personne. Merci également à celui qui roule plus vite sur un Vélib que Usain Bolt sur le 100 mètres, c'est notre réalisateur Rémi. Merci à toutes les Têtes de Vainqueur. On revient le 4 novembre prochain, ce sera à 20h. Très belle soirée à tous. D'ici là, il reste une minute, c'est la minute qui reste.
Et les Belges, ils vont jouer demain, ratata.
C'est beau à voir hein, cette équipe. On dirait un petit manga, un peu là. Il y a tous les petits personnages qui sont contents. On se croirait dans les dessins animés. Des petits Pikachu de partout et.
Ah, oh là là. Tac, tac, tac.
Et la coupe. Elle commence aujourd'hui, ta 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 ta.
Laurent Paganelli qui va remettre le trophée de meilleur joueur du match à Mario Balotelli en direct.
Habla espagnol, no parla italien, no speak english.
Et nous devons gagner, nye.
The rapide in France?
Yeah, of course. Yes.
You say un mot? You speak French? One more?
Hein?
Un mot, speak French. Je suis content.
One word. Je suis très content, merci. Maintenant, massage.
C'est fini.